qui s'ajoutent. Et on veut partager ce projet qui nous rassemble et à travers lequel on veut se mettre au service de Dieu. Donc voilà, donc non seulement je prêche devant mes collègues, mais ce n'est pas une prédication comme on nous apprend à faire. Je suis bien barré. Des disciples qui font des disciples, c'est ainsi qu'on a intitulé notre projet d'Église. Qu'est-ce que ça veut dire? Des disciples qui font des disciples. Avant tout, ça veut dire que nous sommes une communauté de disciples. Ce n'est pas comme on entend parfois faire des disciples qui font des disciples. Ça, c'est une belle formule qui sonne, qui tourne en rond, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas faire des disciples. Si on tient absolument à commencer par un verbe, on va commencer par le verbe être. Être des disciples qui font des disciples. Ou être des disciples qui se souviennent qu'être ensemble en Église, ce n'est pas le point final, mais qu'ils doivent aussi se tourner vers l'extérieur et faire des disciples. Et c'est important de dire cela. C'est important de rappeler que le but n'est pas de faire, mais le but c'est d'être et en étant, de porter du fruit. Être un disciple, c'est une question un peu parfois compliquée. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'être un disciple? Ce n'est pas facile à définir et en même temps, on a la chance d'avoir travaillé ça l'année dernière, en particulier pour ceux qui étaient dans les groupes de maison, puisqu'on a étudié les discours de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Et à travers ces discours, à travers ces quatre discours, Jésus explique ce qu'est être un disciple. Il explique à ses disciples qui le suivent ce qu'il faut qu'ils mettent en œuvre dans leur vie pour être des disciples. Donc j'aimerais juste rapidement résumer ce qu'est un disciple, mais avant de regarder ces quatre discours, la première chose que fait un disciple, c'est suivre Jésus. Suivre Jésus, lorsque Jésus appelle un disciple, appelle quelqu'un, il commence par cet appel direct. Venez à ma suite. Être un disciple, c'est accepter de se mettre en route. Accepter de quitter sa vie, de quitter ses projets. Reconnaître que seul, sans aide, on n'y arrive pas. En termes bibliques, on est pécheur. On a besoin de Dieu. C'est accepter de vivre à travers Jésus-Christ, d'être pardonné grâce à son sacrifice, de vivre son enseignement. En un mot, suivre Jésus. Tout commence là, par cette décision et cette mise en route. Être un disciple, c'est partir sur le chemin avec Jésus, continuer son chemin avec Jésus. Ensuite, premier des discours de l'évangile de Matthieu, le sermon sur la montagne, grand enseignement de Jésus où il explique ce qu'est vivre en disciple. Et qu'il explique que vivre en disciple, eh bien, ça se voit dans la vie. Que votre lumière brille devant les hommes et qu'ils rendent gloire à Dieu, dit Jésus dans ce discours. Vous êtes la lumière du monde et cette lumière doit être vue, doit être visible. La façon dont vous vivez doit parler de Dieu et doit rendre gloire à Dieu. Et ça, ce n'est pas juste des intentions de la part de Jésus. Il détaille, les disciples, ce sont des personnes qui accomplissent la loi de Dieu d'une façon plus remarquable parce qu'ils en ont compris l'esprit. Il ne s'agit pas pour les disciples d'appliquer des règles, mais de changer d'attention. Et vous vous souvenez peut-être, Jésus qui répète, « Vous avez entendu dire qu'il faut faire ceci ou cela, eh bien moi je vous dis, il faut faire encore plus. Il faut changer vos intentions. » Vivre en disciple, c'est avoir une spiritualité, une relation avec Dieu présente, mais discrète, qui n'est pas là pour se faire admirer par les autres. Vivre en disciple, c'est refuser le matérialisme, ne pas servir de maître, plutôt que s'inquiéter, faire confiance à Dieu. C'est aussi trouver la juste distance par rapport aux autres. Et Jésus termine en disant « Faites vraiment ce que je dis, mettez en pratique, n'écoutez pas seulement, il faut que ça se voie. » Deuxième discours, dans Matthieu 10, l'envoi en mission. Les disciples sont envoyés deux par deux en mission pour annoncer la bonne nouvelle. Et c'est remarquable quand même que ce soit le deuxième discours. Ce n'est pas à la toute fin que Jésus, quand ils ont fini la formation, que Jésus les envoie, c'est dès le début. Et c'est une preuve qu'il est vraiment important, que cet envoi est vraiment important dans ce que Dieu demande à ses disciples. Jésus leur donne ses consignes, en chemin, proclamez et dites, le royaume des cieux est tout proche. C'est un message étrange. Un message qui ne dit pas « confessez vos péchés, acceptez le Seigneur Jésus » ou que sais-je. Non, le royaume des cieux est tout proche. Un message qui vient susciter la curiosité, le désir d'en savoir plus, de se mettre à l'écoute, de se mettre en chemin. Un message aussi qui fait le tri entre ceux chez qui ça résonne, ceux que ça intéresse, et puis les autres, qui se disent « oui, demain, j'ai des choses à faire aujourd'hui ». Jésus donne des conseils à ses disciples, ne pas chercher à convaincre à tout prix, ne pas tarder, ne pas hésiter à partir si on ne nous écoute pas. Ne pas non plus chercher à tirer profit de l'annonce qu'ils ont à faire. Et puis aussi de se préparer. Parce que l'annonce de ce message va rencontrer parfois de l'hostilité. Le message qui est porté de suivre Jésus est un message qui divise. Il faut que les disciples en soient au courant. Et moi, peut-être, ce qui me touche le plus dans ce discours, ce n'est pas le discours lui-même, mais ce qu'il y a juste avant. Au chapitre 9, on voit Jésus qui parcourt les foules et qui, à leur vue, est ému. Parce que les gens sont perdus, comme des brebis sans berger. Et Jésus est ému par ça, pris de compassion. Et il dit à ses disciples, « Priez que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. » Et ensuite, il les envoie. Il les envoie parce qu'il a vu ce besoin. Nous aussi, ouvrons les yeux pour regarder qui se trouve autour de nous. Troisième discours en Matthieu 18, un discours qui parle des relations dans l'Église. Et c'est étonnant, presque anachronique de parler d'Église alors que Jésus est encore là et qu'il n'y a pas vraiment d'Église qui se rassemble. Et pourtant, c'est un mot que Jésus utilise dans ce discours, Église, comme ecclésia, le rassemblement des croyants. Les croyants, les disciples, forment une communauté. Comment vit-elle ? De la même façon qu'un disciple doit être différent, ça se voit dans sa vie, l'Église, le rassemblement des croyants, doit être différent et ça se voit dans la façon dont il fonctionne. Et Jésus, dans ce discours, donne deux directions. La protection du plus faible, du plus petit. L'invitation à être comme un enfant, faible et petit, et puis la nécessité de ne perdre aucun de ses petits. Et en particulier de les protéger contre ceux qui pourraient les faire chuter. Protection du plus faible, et puis aussi, deuxième direction, celle du pardon. Confronter ceux qui fautent si nécessaire, mais aussi pardonner sans se lasser. Jusqu'à 77 fois, 7 fois, dit Jésus. J'ai jamais compté jusque-là. Et puis, être prêt à aller chercher celui qui se perd, la brebis perdue, quitte à laisser les 99 autres pour aller chercher celui qui se perd. Jésus a cette parole dans ce discours, là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et en fait, ces deux directions, la protection du faible et le pardon, c'est les deux directions que Jésus a suivies dans son ministère. Il a combattu les chefs religieux qui faisaient peser un poids sur les croyants et qui pouvaient les dégoûter pour les protéger, justement, ces plus faibles. Et puis, il a aussi été accueillant envers ceux qui étaient mis au banc de la société, qui étaient pointés du doigt comme pécheurs notoires, prêts à les pardonner. La communauté que Jésus veut, c'est une communauté qui lui ressemble dans le ministère qu'il a accompli. Et puis, il y a aussi ce quatrième et dernier discours, le discours sur la fin des temps. Un discours un peu déconcertant, où Jésus lève le voile sur ce qui arrive à la fin. On cherchera à tromper les disciples, ils seront persécutés, il y aura des difficultés. Et tout ça finira avec le retour du Fils de l'homme. Soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Et le disciple, c'est quelqu'un qui sait que le monde dans lequel il vit, le monde d'aujourd'hui, est un monde qui passera, qui a autre chose derrière. Et cette autre chose, le disciple l'attend et il se tient prêt à ce que ça arrive. Et Jésus insiste sur cette notion, se tenir prêt. Se tenir prêt comme s'il allait revenir demain, comme s'il allait revenir tout à l'heure. Se tenir prêt, se conforter à son enseignement pour ne pas être trouvé dans une situation où on a oublié. Être dans l'action pour qu'au moment où il revienne, ne pas être trouvé dans une situation on n'est pas en train de faire ce qu'il demande. Voilà. Être un disciple, suivre Jésus, avoir une vie différente qui suit l'enseignement du Maître, être en mission, vouloir la partager, en communauté, avoir des relations différentes également, et être dans l'attente de ce qui doit venir. Et l'Église dans tout ça? À quoi sert-elle? Pourquoi rejoindre une Église, celle-ci ou une autre? Pourquoi insister sur l'Église si, après tout, il faut que je sois un disciple? Je crois déjà que l'Église est un bon lieu pour enseigner. On a vu, il y a ces discours et ils ont besoin d'être lus et relus et médités, et on n'a jamais fini d'en faire le tour. Nous avons été surpris l'an dernier, justement, dans les groupes de maison, quand nous les avons pris. Beaucoup connaissaient ces discours, et pourtant, il y avait encore des choses à en tirer. Mais ce n'est pas la seule chose que l'Église peut apporter. Je pense qu'il faut prendre conscience de ce qu'est une Église, ce dont elle est composée. Une église, c'est un lieu où des personnes différentes se regroupent. Et quand je dis différentes, je pense aussi à des niveaux différents de la foi. Comme s'il y avait des cercles concentriques. Et ceux qui me connaissent savent que j'aime bien les cercles concentriques. Et on les retrouve dans l'Évangile. Dans Matthieu 5, au verset 1, juste avant le sermon sur la montagne, on voit la foule. Et Jésus qui monte sur la montagne et les disciples qui sortent de la foule pour se mettre autour de Jésus. Et je trouve qu'il y a cette représentation visuelle des réalités plus abstraites du positionnement de chacun. Jésus, des gens qui approchent, qui sortent de la foule, du monde, pour s'approcher de Jésus et se mettre à son écoute. Et ces cercles concentriques, on les retrouve ailleurs dans l'Évangile. Il y a la foule, et puis il y a le groupe des 70 disciples que Jésus envoie deux par deux, mais il y a aussi les 12 disciples à qui il donne un enseignement particulier, et puis trois, Pierre, Jacques et Jean, sur qui il compte encore plus. Il y a comme ça des cercles concentriques. Et l'Église, eh bien, c'est la même chose. Avec des cercles que j'ai piqué à Rick Warren et puis qu'on a retravaillé un peu. Proximité, communauté, assemblée, école, moteur. Dans l'Église, il y a des personnes qui ont accepté de devenir disciples, qui suivent Jésus. Et puis des personnes qui sont encore en chemin. Il y a des personnes qui veulent suivre Jésus de façon active, d'autres qui regardent plus, observent. Il y a parmi ceux qui viennent pour voir, il y en a qui viennent une fois de temps en temps et puis qui ne revoient pas parce qu'elles ne les intéressent pas. Puis il y en a d'autres qui reviennent avec régularité parce qu'elles aiment ce qu'elles trouvent. Et donc, comme ça, cinq cercles, celui de nos prochains, celui des réguliers qui viennent régulièrement, et puis le cercle des membres, de ceux qui s'engagent pour Jésus en se faisant baptiser et s'engagent dans l'Église en devenant membres, puis les membres matures qui souhaitent grandir à travers les groupes de maison, et ceux qui ont trouvé leur place, leur ministère, et servent, et qu'on est prêt à envoyer pour le service. Je crois que l'Église, c'est un lieu merveilleux, justement, pour être une communauté de disciples qui font des disciples. Et j'aime cette citation de Christopher Wright qui dit que ce n'est pas tant que Dieu a une mission pour son Église dans le monde, mais plutôt que Dieu a une Église pour sa mission dans le monde. La mission n'a pas été faite pour l'Église, c'est l'Église qui a été faite pour la mission. Ce n'est pas une mission qui nous est confiée. La mission, elle a toujours été là. C'est pour cette mission que Jésus est venu sur terre, pour constituer un peuple pour Dieu, un peuple qui le loue. Et pour accomplir cette mission, Dieu s'est donné une Église dont nous sommes. Et donc, j'en viens à notre projet d'Église. Pour être une communauté de disciples qui fait des disciples, nous nous sommes donné cinq mouvements, cinq missions, et chaque mouvement correspond à un cercle finalement. Il y avait cinq cercles. Le premier, c'est d'inviter. Avoir un lieu qui est accueillant, qui permet à chacun de venir, qu'il soit chrétien, qu'il ait les codes, le vocabulaire, les habitudes, ou pas du tout. Qu'il vienne parce qu'il soit curieux et envie d'en savoir plus. On veut un lieu où il est facile d'inviter pour que chacun puisse le faire. Ensuite, le deuxième mouvement, c'est d'accueillir. Que les gens qui ont été invités, qui viennent, ne soient pas des anonymes, mais qu'ils puissent passer un bon moment. Comme ceux qui venaient vers Jésus passaient un bon moment en sa présence. Et ça, c'est l'affaire de tous d'accueillir. Et ensuite, le troisième mouvement, le mouvement central, le plus important, je crois, celui de baptiser. Et quand je dis baptiser, je ne dis pas seulement plonger dans l'eau, mais inviter au baptême. Être au clair sur le fait que la décision la plus importante qu'on puisse prendre dans la vie, c'est celle de suivre Jésus. Et être prêt à le rappeler à ceux qu'on accueille. On t'accueille et on t'aime, mais on croit que la meilleure décision que tu puisses prendre pour ta vie, c'est d'accepter Jésus et de rejoindre ses disciples. Et de le faire, de le montrer à travers le baptême. Le baptême comme point central de l'engagement à suivre Jésus. Et ensuite, Le quatrième mouvement, c'est enseigner. Et enseigner vient après le baptême. Donc, parce que suivre Jésus, ce n'est pas avoir bien appris ses leçons et ensuite passer un test. Suivre Jésus, c'est une décision de se mettre en route et c'est alors qu'il nous enseigne, qu'il nous apprend ce que ça veut dire de le suivre. Et on n'a jamais fini d'apprendre ce que Dieu attend de nous, d'apprendre ce que ça veut dire de le suivre, de l'aimer, d'être à lui dans toutes les composantes de sa vie. On n'a jamais fini d'être transformé par son esprit. C'est pour ça que enseigner vient après baptiser. Et ensuite, le cinquième mouvement, envoyer. Que ce soit envoyé au loin, en mission, ou envoyé pour servir dans une autre église ou dans une autre œuvre. Que ce soit envoyé dans notre église pour un ministère particulier, auprès des enfants, auprès de la louange, à l'accueil, fait ou que sais-je, mais faire son ministère avec conviction, ou même envoyé à l'extérieur pour un ministère d'évangélisation auprès d'une population particulière. Ne forme pas des disciples pour qu'ils appartiennent à cette communauté. On les forme au nom du Seigneur pour qu'il les envoie là où il a prévu. Et nous voulons reconnaître cet envoi et laisser partir ce que le Seigneur appelle. Cinq mouvements dans lesquels nous voulons être tous impliqués. On comprend facilement qu'on peut tous inviter, on peut tous accueillir, et on doit tous inviter et on doit tous accueillir, mais également on veut tous baptiser. Et je disais, baptiser, ce n'est pas juste plonger dans l'eau, mais c'est mettre le baptême au centre de nos vies. La décision de suivre Jésus et le montrer, le rendre public, au centre de nos vies. Et ça, on peut tous le faire en témoignant de ce qu'on a fait, de ce que cette décision a changé nos vies. Et puis pareil, pour enseigner, pour envoyer, c'est un mouvement qui nous concerne tous. Parce qu'on avance tous avec le Seigneur et on a tous des choses que nous avons apprises et que nous pouvons transmettre. Des attitudes, des exemples dans nos vies qui peuvent servir à d'autres. Et le mouvement envoyé également, nous participons tous à la reconnaissance des ministères et nous sommes tous concernés par ce besoin de laisser partir ce que Jésus appelle ailleurs. Donc c'est ce que nous voulons, que notre Église soit un lieu pour tous. Si vous êtes chrétien, si vous êtes disciple, vous pouvez participer au mouvement. Mais si vous n'êtes pas chrétien, je tiens à dire, vous êtes les bienvenus parmi nous. Vous pouvez venir une fois de temps en temps, vous pouvez venir régulièrement, comme vous vous y trouvez bien. Mais notre vœu, c'est que vous puissiez aussi goûter à cette vie de disciple dont nous croyons qu'elle est la meilleure possible. Y goûter, vous y engager et y persévérer. Et le meilleur témoignage de ce que cette vie apporte, je le trouve dans la Bible de ceux qui l'ont suivi jusqu'au bout. Texte que j'affectionne particulièrement dans l'évangile de Jean. Un moment où Jésus a choqué et où plusieurs sont partis. L'évangéliste ne le cache pas, il dit « Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. » Jésus demanda alors aux 12 disciples « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Nous croyons et nous savons que toi, tu es celui qui est saint, envoyé par Dieu. À qui irions-nous ? C'est le témoignage de Pierre. C'est le témoignage que je veux partager avec vous, que plusieurs ici veulent partager. À qui irions-nous ? Il y a tout en Jésus-Christ. Lui seul a les paroles qui donnent la vie éternelle. Cette déclaration est pertinente encore aujourd'hui. Et si vous voulez vous engager sur ce chemin, n'hésitez pas à venir me voir à la fin du culte ou à un autre moment, venir me voir ou voir Michael, pasteur de notre église également. Je vais prier.